Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Fatima Benomar et Claire Savina autour du livre « Foutu pour foutu, 30 histoires de la justice faite aux femmes » paru aux éditions de la Dernière Lettre, le 24 février 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Ce soir, on présente le bouquin de « Foutu pour foutu » et c'est 30 histoires de la justice faite aux femmes. C'est paru aux éditions de la Dernière Lettre. Alors, ça a été écrit par 9 autrices, j'allais dire intrépides, mais en fait, c'est incorrigible, c'est ça ? Non, pardon.
Ça marche aussi.
Oui, c'est les incorrigibles intrépides. C'est aussi un bouquin qui est illustré. Enfin, on aura l'occasion de parler du processus de création de ce livre. Sont présentes ce soir Fatima Benomar et Claire Savina, qui ont participé à la rédaction du bouquin. Merci beaucoup à vous deux. C'est un bouquin qui, à travers 30... plus que 30 portraits montrent comment la justice dans différents contextes historiques, géographiques et culturels s'applique de façon spécifique aux femmes, cis ou trans. Merci beaucoup d'être venus, vraiment ça nous fait super plaisir de vous accueillir. Cette rencontre se fait dans le cadre du cycle de rencontres consacré à la justice à Terra Nova. Merci beaucoup, bonne soirée.
Bonsoir et merci d'être venu. Oui, effectivement, on est aujourd'hui avec à ma gauche Claire Savina, donc qui est la directrice d'ouvrage, je pense aussi l'initiatrice du projet, et moi donc qui fait partie des 9 autrices avec la double casquette autrice illustratrice. Et donc le fil de ce projet, c'était à la fois effectivement de vous proposer 30 cas d'école, on va dire du 13e siècle à aujourd'hui sur plusieurs continents, de portraits ou bien individuels, c'est-à-dire vraiment des portraits de personnages, de personnes qui ont existé, ou bien des portraits collectifs, c'est-à-dire plusieurs personnes qui ont été concernées par le même phénomène, la même loi, etc. Donc pour illustrer en quoi les femmes ont été des justiciables un petit peu particulières aux yeux de la justice, c'est-à-dire à la fois la justice institutionnelle, mais aussi l'opinion publique, ce qu'a pu en dire la presse à l'époque, la culture populaire, et comment elles étaient souvent diabolisées, infantilisées, comment on a chargé la mule ou parfois qu'on les a déresponsabilisées pour des raisons particulièrement liées au genre. Et l'idée, c'était de faire des portraits vraiment avec un travail de recherche. Alors nous, on n'est pas forcément ni juriste, ni historienne, etc. Donc il y a eu toute une méthodologie du fait de dans la sélection en fait, des portraits pour qu'ils soient assez représentatifs et d'un point de vue géographique et d'un point de vue des thèmes abordés et des époques qui ont été concernées. On sait, donc il y a vraiment un vrai effort de constatation de ce dont on parle en croisant plusieurs sources. Et le fait de s'entourer aussi d'expertes, je pense qu'il y a 2 hommes dedans, mais c'est surtout des expertes, pour vraiment nous amener à chaque fois, pour le coup, un regard d'historienne, de personnes qui étaient particulièrement concernés. Est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose à cette intro? Et donc voilà, donc les 30 histoires individuelles et collectives, c'est donc par ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on fait vraiment une traversée de la plus vieille histoire à la plus récente, et avec à chaque fois, pour justement ne pas juste se contenter de ne pas faire de pont entre les histoires, dans chaque portrait, un clin d'œil avec quelqu'un qui a vécu dans peut-être complètement une autre époque et une autre contrée, qui a eu une trajectoire avec vraiment des points communs avec la personne dont on est en train de raconter l'histoire. Et donc, l'idée, c'était effectivement de constater des faits objectifs dans leurs itinéraires, donc des récits vraiment constatés, et de faire des recherches, etc. Et avec, pour le coup, une dimension un peu plus subjective, c'est qu'on les a catégorisés en 5 catégories, selon ce qui a été un peu projeté sur elles. Alors, comme on a fait un titre avec beaucoup de F, foutu pour foutu, on a fait 5 catégories qui commencent par F. Il y a par exemple les fatales, ce sont les personnes qui ont commis des crimes de sang. Les fouteuses de merde, c'est donc les militantes, etc. etc. Je vous laisserai découvrir un peu ça. Donc ça, c'est une catégorisation un peu plus subjective pour montrer un peu notre regard sur comment on interprète la manière dont elles-mêmes ont été jugées. Il y a une vraie diversité dans le sens où on ne part pas du principe que toutes ont été innocentes ou n'auraient pas dû être jugées ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment des personnes qui se sont rendues coupables de crimes et des personnes qui ont fait vraiment jurer les scénarios, on va dire, préconçus des stéréotypes de genre et d'autres qui complètement innocentes, qui n'avaient rien fait, qui ont eu que d'autres choix que de subir, qui ont été écrasées par le poids de ces stéréotypes de genre. Donc moi, ce qui m'a vachement interpellée et enrichie dans ce projet, c'était de voir à quel point beaucoup de ces processus étaient en fait, avaient comme objectif une espèce de police de l'ordre social du genre, plus qu'appréhender les femmes comme d'éventuels dangers contestataires, donc qu'il faut essayer de réprimer pour qu'elles ne déstabilisent pas plus que ça la cité. Donc il y avait vraiment cette idée, alors malgré le potentiel révolutionnaire des femmes qu'on connaît, pour celles qui connaissent un peu l'histoire des femmes, mais on se rend compte qu'on projette beaucoup sur elles, qu'elles sont... qu'elles sont dociles, sans doute un peu lâches, les femmes, douillettes, empathiques, plutôt honnêtes, sensibles. Donc, on ne les voit pas non plus comme d'énormes dangers pour la société. Alors que les hommes, on projette sur eux qu'ils sont naturellement violents, qu'ils ont un rapport plus décomplexé avec le passage à l'acte. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on voit bien comment, à chaque fois, ces portraits de femmes les plus criminelles ou transgressives, tout simplement, on fait un peu bugger le regard de la société et des juge et que c'est pour ça que parfois elles se sont attirées des traitements judiciaires un peu particuliers. Et donc ce que je disais, c'est que ce qui illustre un peu ces 30 cas, c'est comment celles qui se sont fait le plus taper sur les doigts, il y a vraiment une dimension qu'elles ont désobéi à leur genre. Et donc ça aide un peu à cartographier toutes les bornes acceptables du genre féminin, parce qu'au fait le couperet tombe assez vite dès qu'elles franchissent une certaine ligne. Et en fait, on voit à quel point les femmes qui se comportent avec plein de guillemets comme des hommes sont vraiment perçues comme des monstres à part, on va dire. Et donc, on voit comment la pression de la justice, c'est de les cantonner vraiment dans une féminité normative et qu'elle les punit vraiment selon la manière dont, on va dire, elles désobéissent aux représentations collectives, donc les femmes, sages, maternité, etc. VS, les féminités un peu, entre, on va dire, déviantes, donc pâles, femmes, cis, blanches, hétéro, à la vie bien rangée. Donc on voit vraiment les figures de la monstrueuse et de l'hystérique qui revient beaucoup dans les jugements qui ont été faits et dans les audiences et dans l'opinion. Et comment la violence féminine, en fait, ne saurait être dans les représentations collectives que la conséquence du vice, de la maladie mentale. Enfin voilà, ça trahit les lois de leur nature. Il y a parfois une dimension raciste. On le voit par exemple avec un portrait collectif qui est dédié aux lois Jim Crow. Donc, c'est des lois qui ont sévi aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage. Et on voit vraiment la violence raciste qui s'exprimait dans la presse, dans les représentations populaires sur les femmes noires, comme si elles n'appartenaient pas vraiment à la catégorie femme et en même temps pas à la catégorie homme parce qu'elles sont souvent hypersexualisées. Enfin, il y a cet article qui montre vraiment comment on en fait encore une féminité à part, interprétée à part par le système judiciaire, entre autres, ou le système de répression. Il y a la question sexuelle, comment, par exemple, les victimes de viol deviennent un problème. Et donc, par exemple, on leur réserve parfois des mariages réparateurs, c'est-à-dire le fait de résoudre leur problématique par le fait de leur imposer de marier leur violeur. D'ailleurs, ce n'est pas du tout, dans les yeux du système, interpréter ça comme une peine pour elles, mais plutôt comme une résolution du problème. La question des viols réparateurs, la question que pour punir un homme, ben, on va... violer une femme de sa communauté ou de ses proches. Il y a tout à l'heure Claire qui va vous faire une lecture sur un portrait qui est dédié à ça. Il y a l'autre question qui pose un problème, c'est l'autonomie des femmes. Donc on sait que toutes les sorcières qui ont été ostracisées, diabolisées au XVIe et XVIIe siècle, c'était des femmes âgées, célibataires, qui sortent un peu du rôle non reproductif, enfin qui sont plutôt dans un rôle plutôt non reproductif et qui revendiquent une certaine indépendance. Donc on peut retrouver aussi une espèce de filiation avec les guérisseuses, les avorteuses, donc des femmes qui revendiquent un savoir. Et là, elles ont eu aussi un système de répression qui s'est abattu sur elles de manière assez particulière. Et puis, il y a les militantes assumées, donc celles qu'on a baptisées les fouteuses de merde. On aurait pu tout aussi bien les appeler les féminazies aujourd'hui, qui ont voulu changer la société. Et par exemple, quand on analyse la guerre des images qui ont été faites aux suffragettes, c'est assez... pour celles qui connaissent un peu les histoires, sinon je vous encourage vachement à le faire. Voilà, c'est très très parlant. Alors on peut nous dire, et ça se comprendrait, c'est un peu gonflé de faire un livre sur la répression particulière des femmes, parce que, en tout cas, pour ce qui est de la répression judiciaire ou carcérale, ça va, elles sont plutôt épargnées. Le système carcéral, il est quand même très très surreprésenté avec les femmes. Alors, avec des hommes plutôt. Ce qui est tout à fait vrai, en France, on est autour de 4% de femmes, de prisonniers qui sont des femmes. En Espagne, au Portugal, à peu près 9%. Aux États-Unis, au Canada, à peu près 7%. Ce n'est pas une constante dans l'histoire. Par exemple, à un moment, à Stockholm, il y avait, au début du XVIIIe siècle, il y avait un taux de criminalité féminine qui était deux fois plus élevé que les hommes. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé. Il y a un essor récent, par ailleurs, de la population carcérale féminine qui a augmenté de 17% ces 10 dernières années. Souvent liées à la consommation de drogue, avec des risques particuliers, typiquement le fait de devoir scoltiner les services sociaux quant à la garde de leurs enfants, mais avec une place aussi très périphérique dans le marché de la drogue, plutôt des passeuses, les mules pauvres issues d'Amérique latine. Et là aussi, quand on étudie les textes, ils ont du mal à parler des femmes donc condamnées pour cela. Ils vont encore une fois les essentialiser comme forcément victimes, les mères, les épouses qui ont besoin de protection, et beaucoup moins parler d'elles en tant que délinquantes. Et on voit une dimension raciste là aussi très visible, enfin très quantifiable. Par exemple, aux États-Unis, les Afro-Américaines, les Latino-Américaines sont très surreprésentées dans les prisons. Il y a des traitements spécifiques à elles, comme les fouilles corporelles, les menaces de viol, et les viols aussi, les tests de virginité imposés. Donc voilà. Mais on voit à quel point il y a une répression, on va dire, assez ambivalente des femmes. Par exemple, si je prends l'exemple de la commune de Paris, de la part des Versaillais, il y a eu plus de femmes qui ont bénéficié de non-lieu, mais pour les femmes qui ont été condamnées, elles ont eu les peines les plus dures. Par exemple, il y a 13% de femmes qui ont fait la commune qui ont été condamnées à mort, contre 0,9% des condamnés hommes. Et 13% ont été condamnés aux travaux forcés, contre 2,3% des hommes. Donc encore une fois, on va les épargner et en même temps, on va charger la mule pour celles qui se sont rendues coupables parce qu'elles sont apparues comme complètement monstrueuses. Enfin, des femmes qui transgressent complètement l'ordre du sexe, qui font de la politique, qui en plus par la voie révolutionnaire, en s'armant. Donc, c'est par cette espèce d'ambivalence, enfin, d'exemple, on peut voir à la fois le fait qu'elles sont épargnées par la masse et en même temps qu'on les surpénalise. Voilà, je trouve que ça illustre assez bien cette problématique-là. Et on observe aussi qu'il y a des allègements de sentence quand on disqualifie leur capacité à avoir pris des initiatives, avoir commis l'acte de manière autonome, isolée. Et on sent que le système judiciaire, en fait, il n'est pas neutre dans le sens où il reproduit l'ordre social genré. C'est-à-dire que si une femme devant un juge se comporte, entre guillemets, comme une femme, elle va avoir une peine réduite. Ça veut dire que si elle montre des regrets, si elle montre qu'elle a fait ça parce qu'elle avait une dépendance affective ou financière à un homme, si elle se présente devant le juge avec un habillement très correct, si elle est timide, polie, qu'elle ne parle pas trop fort, elle peut avoir un surcroît d'indulgence. Alors que si elle se comporte entre guillemets comme un mec, c'est-à-dire qu'elle assume, non, j'ai agi seule, j'ai pas été entraînée, qu'elle choisit pas la ligne de défense, on va dire, de la soumission ou de la naïveté, si elle parle fort devant le juge, eh ben, elle sera jugée non seulement plus durement qu'une autre femme, mais même plus qu'un homme pour la même infraction. C'est-à-dire qu'on réprime, en plus de l'infraction, la transgression de genre. Il y a une espèce de petite taxe genrée dans l'interprétation pseudo-neutre de la justice. Tu faisais un petit signe ou pas ? je vous encourage vachement à voir un épisode d'un podcast à soi qui parle de la masculinisation justement du système carcéral et qui montre comme les filles, en fait, en même temps, elles sont plus contrôlées depuis l'enfance, elles auront moins tendance à transgresser les règles à cause de l'éducation genrée qu'elles reçoivent, et en plus elles sont directement sanctionnées, en fait, par la vie civile quand elles font des transgressions. Et en fait, on voit là que le contrôle pénal n'est qu'une facette. Il y a aussi le patriarcat en soi qui agit comme une police, c'est-à-dire que la société va se donner souvent comme mission régalienne de devoir gérer les comportements dangereux des hommes par la prison, et quelque part les femmes, elles sont déjà maîtrisées dans l'espace de la famille paternelle puis maritale, elles sont déjà contrôlées par un espèce de maintien de l'ordre masculin, ne serait-ce que par le harcèlement de rue, et qui donc une espèce de police qui n'a d'autre uniforme que le genre. Et la prison, finalement, pour elle, ne vient comme complémentaire d'un système répressif. Les femmes, elles sont pré-réprimées, on va dire, d'abord au foyer, parce que la plupart des violences faites aux femmes sont faites dans l'espace du foyer, et puis même dans l'espace public, où elles auront des démonstrations de force, donc par les violences conjugales, par le harcèlement de rue, comme je disais, etc. Et donc, quelque part, elles ont aussi un peu moins de marge de manœuvre pour déstabiliser, on va dire, la cité. Elles sont moins dans l'espace public, et encore moins la nuit. Je donne juste une petite anecdote personnelle. Quand je suis allée porter plainte dans le commissariat du 11e arrondissement de Paris pour une agression sexuelle, le commissaire m'a dit à quelle heure ça s'était passé. J'ai dit à minuit. Et tout de suite, il m'a dit « Non, mais ça va pas. Qu'est-ce que vous faites dehors à minuit ? La prochaine fois, vous rentrerez chez vous, ou pas seul, ou plus tôt. » Et donc, je lui ai demandé de me citer le texte de loi qui disait ça. Et évidemment, il n'y avait pas de texte de loi. Il faisait plus référence, on va dire, à un ordre social qu'à un état social quand il me faisait cette préconisation. Donc, on ne peut pas ne pas parler notamment d'une autre variante de la répression des femmes en milieu, on va dire, confiné. C'est les maisons d'arrêt et les asiles psychiatriques, qui ont eu un énorme essor. Il y a eu un énorme essor de l'internement en France, notamment en 1838, quand il y a eu la loi dite des aliénés, qui a facilité les procédures d'internement et qui a concerné très, très majoritairement les femmes. Donc, en gros, à chaque fois qu'on voulait se débarrasser des épouses, des filles encombrantes, alors c'était une époque plus scientiste, donc on ne les accusait plus d'être des sorcières, ça faisait un peu old school. Donc, on a inventé des maladies comme l'hystérie, voilà, et c'était devenu l'incarcération des femmes dans les asiles psychiatriques, était devenue très, très banale. Et ça a même doublé entre 1850 et 1871, donc en 20 ans. À Paris, notamment, l'internement forcé à la Salpêtrière, il y avait d'abominables sévices qui ont concerné des milliers de femmes françaises ou résidant en France. Et dès que leur caractère, on va dire, dérangeait un petit peu, ou qu'elles pouvaient entacher la réputation de leur famille parce qu'elles faisaient la jaille, ou de leur conjoint. Donc, et c'était quand même des traitements extrêmement lourds, avec des charges électriques, envoi de seaux d'eau froide dans la figure, séances d'hypnose pour déclencher des crises dites d'hystérie. Même parfois, on mettait ça en scène, c'est-à-dire les médecins, ils faisaient des séances publiques en mettant les femmes en crise d'hystérie pour faire la démonstration. Voilà. Et avait évidemment une logique de classe très, très importante. Donc, c'était beaucoup les femmes aussi mendiantes, marginales, vagabondes, en situation de prostitution, etc., qui étaient concernées, ou même qui ont refusé, par exemple, de faire le ménage ou le devoir conjugal. C'est quelque chose dont on peut analyser que ça existe encore. Je ne sais pas si vous connaissez Muriel Salmona, c'est une psychiatre féministe, et je la cite, elle dit « Beaucoup de femmes aujourd'hui sont internées dans le cadre des violences conjugales et intrafamiliales. Certaines ont subi des viols et souffrent de troubles psychotraumatiques importants, rarement désignés comme tels par les médecins, des bouffées délirantes. » Enfin, eux, ils vont parler plutôt que de bouffées délirantes ou de troubles de l'humeur. Donc on est encore quelque part dans cette idée d'enfermer les femmes et de leur inventer un petit peu des maladies. Pour ce qui est des crimes des femmes. Alors en général, on classe un peu les grands crimes majestueux, ce sont ceux des hommes. Et puis il y a les crimes et délits dits féminins qui vont être souvent, ça aussi c'est assez révélateur, liés à la sphère domestique ou sexuelle ou reproductive. Il y a par exemple les vols domestiques, c'est-à-dire les femmes ou les filles domestiques d'ailleurs qui font des petits larcins, l'avortement vu qu'il a été longtemps criminalisé, la prostitution, l'adultère. Donc il y a vraiment des enfermements de femmes dans les prisons pour des cas très très féminins, on va dire. Et l'oppression patriarcale, elle se contente pas juste d'interpréter la violence féminine. En quelque sorte, elle la provoque parce que les femmes, on est régulièrement exposées aux violences masculines et à leur impunité. Donc, dans ce contexte, en fait, beaucoup sont condamnées pour s'être tout simplement défendues contre des agresseurs ou contre des conjoints violents. Et avec cette angoisse un peu, est-ce qu'on va me croire ? Est-ce qu'on va croire le contexte dans lequel je me suis défendue ? C'est un peu la fameuse histoire du magnifique film Thelma et Louise. Donc, ce sont deux copines, elles sont dans un bar. Il y a un mec qui essaye de violer l'une d'elles et l'autre lui tire une balle dans la tête, et elles partent en cavale parce qu'elles savent très bien qu'elles ne seront pas crues. Et évidemment, la version des faits des femmes est toujours un peu suspecte si elles ne sont pas des victimes parfaites, si elles n'ont pas un parcours irréprochable, donc des antécédents entre guillemets de femmes faciles, alcooliques ou mauvaises mères. Je ne sais pas si vous avez suivi le récent procès du 36 quai des Orfèvres, c'est-à-dire ces nombreux policiers qui ont violé une fille, une jeune femme canadienne. Et il est vraiment dit dans les récits de la presse comment elle dansait, on va dire, un peu éméchée dans le bar où elle était avant. Et encore une fois, on souligne ses mœurs pour, on va dire, l'enfoncer. Donc vraiment, beaucoup de femmes vivent dans la double peur d'être victimes de violences masculines, souvent sexuelles, et accusées d'avoir ou bien provoqué, ou bien de mentir pour le piéger ou se venger ou quoi que ce soit, ou d'avoir négligé leur sécurité, parce que c'est à elles de prendre en charge leur sécurité, évidemment. Donc on peut très bien leur dire, comme on m'a dit dans le commissariat, qu'est-ce que tu faisais à cette heure-ci ? Et l'opinion mixte, pour le coup, que ce soit les femmes et les hommes, et les institutions vont quand même se poser, encore une fois, en juge de la bonne réputation, du bon comportement. Si on va vers les hommes, notamment les hommes coupables de féminicide, alors quand je dis les hommes, c'est les hommes les plus privilégiés. Hein. Ils doivent être blancs, cis, hétéros. Si c'est des hommes racisés ou des hommes avec une certaine ambiguïté de genre, évidemment, ce n'est pas les plus épargnés. Mais pour l'homme, on va dire classique, voilà, ils sont assez excusés au final, pardon, classique entre guillemets. Il faut que je pense que je vais mettre des pancartes guillemets pour mes prochaines représentations. les hommes donc blancs, cis, hétéros, etc., ils sont assez excusés. Alors moi, je suis assez vieille, entre guillemets, pour me souvenir du traitement médiatique de l'affaire Bertrand Cantat, la première affaire, donc avant qu'elle ait une relecture un peu plus récente. Mais voilà, c'était un roman, une histoire d'amour. C'était vraiment très, très, très indulgent quand même à son encontre. Et cette minoration, elle n'existe pas qu'en France, bien évidemment. Les féministes brésiliennes ont même fait un slogan qui s'appelle « Quand on aime, on ne tue pas », pour vraiment essayer de contrecarrer l'idéologie dominante au Brésil que voilà, l'homme, parfois, il doit laver son honneur par un crime de sang parce que c'est très important pour les hommes quand même de contrôler leurs femmes et que c'est comme ça aussi que va se jouer la reconnaissance réciproque du prestige des hommes entre hommes, c'est-à-dire un homme qui se fait entre guillemets un peu baltringue par sa femme qui lui parle mal en public et tout, on souligne que c'est quand même très, 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 très humiliant et destructeur pour lui. Et donc, il y a une tendance qui est à demander aux féministes, mais aussi tout simplement aux femmes, aux épouses, à prendre des pincettes et à peser leurs mots, voire même leurs revendications, quand on s'adresse aux hommes. D'où le ouin-ouin récent, par exemple, de Vincent Cassel, qui nous rappelle à chaque fois que combien nos revendications sont, même le fait de... Voilà, c'est déstabilisant pour eux. Il y a aussi l'exemple de la criminalisation de l'adultère. Dans de nombreux pays et à de nombreuses époques, l'adultère masculin est carrément toléré, voire encouragé. Donc ça rentre dans le package de l'homme alpha, évidemment. Ils doivent séduire, multiplier les conquêtes, etc. Alors que la féminité normative, c'est évidemment ne pas collectionner les rapports sexuels, surtout pas avec des hommes différents et encore moins en même temps. Donc, en fait, on se rend compte à quel point il y a eu, là aussi, c'est un des exemples de la géométrie variable de la justice. Alors, il y a une dynamique récente, au final, pour que l'adultère féminin ne soit plus criminalisé et qu'on enlève des lois sur l'indulgence judiciaire envers les hommes trompés qui ont tué leurs femmes. Mais on se rend compte, en voyant cette dynamique, que c'est quand même très récent. Donc, c'est en 2005, en Haïti, qu'on a supprimé l'exonération du mari si jamais il tue sa femme parce qu'il est trompé. Et qu'on a réussi aussi à décriminaliser l'adultère pour les femmes. C'est en 2003 que la Turquie a aboli la réduction des peines pour les hommes qui ont tué leurs femmes parce qu'ils étaient trompés. C'est en 2005 que l'État de Victoria en Australie a aboli l'exemption de peine, même chose. Et en France, dans les années 1800, le code civil napoléonien, il permettait non seulement d'envoyer les femmes au cachot pour adultère, et c'était vraiment une exception française. À l'époque, l'adultère était dépénalisé dans, dans les pays anglo-saxons, germaniques, scandinaves, du début du 19e siècle. Mais l'homme pouvait aussi obtenir le divorce s'il arrivait à démontrer l'adultère de sa femme, et c'était évidemment pas, l'inverse n'était pas vrai. Et on retrouve donc dans ce code civil napoléonien donc le fameux crime passionnel, c'est-à-dire l'article rouge 324, qui demandait l'indulgence pour les hommes qui ont tué leur femme parce que, je cite, « ils sont plus malheureux que coupables et ne doivent être punis que d'un léger châtiment ». Voilà, donc je vous ai fait un petit tour, on va dire, de certaines problématiques qui sont soulevées. Je me suis demandé si je faisais une entrée, un exposé à travers les portraits ou plutôt à travers les problématiques, mais je me dis tant mieux si vous... c'est un rappel, mieux vaut que vous traversiez ça par l'entrée-portrait en feuilletant le bouquin et que je vous laisse cette liste de problématiques dans le cadre de nos échanges ici. Mais voilà, donc l'idée est beaucoup plus ludique, c'est pas un travail universitaire en développant les problématiques, c'est vraiment incarné par des parcours de femmes à travers les siècles, et voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Je pense que sans transition, justement, puisqu'on a dit que c'était un livre qui se lisait par portrait, on s'est proposé de vous lire un portrait ce soir. Et vous avez toutes les idées que Fatima vient de vous exposer. Et vous allez peut-être pouvoir interpréter ce que je vous lis à la lumière de ce qu'elle vient de vous dire. Donc je pense qu'on peut y aller, si ça vous va. Les sœurs Koumari. Donc c'est un portrait qui se passe aujourd'hui, qui donc se situe vers la fin de l'ouvrage dont on parle. Les sœurs Koumari. En 2015, dans le nord de l'Inde, un conseil de villageois a fait justice. Il a condamné deux sœurs intouchables à être violées et exposées nues dans les rues, le visage noirci. La raison, les agissements de leurs frères. La famille saisit la Cour suprême. L'affaire est médiatisée. Leur peine ne sera pas exécutée. Si les deux sœurs l'ont échappé belle, ce n'est pas toujours le cas. Et ces condamnations, bien qu'illégales, sont encore monnaie courante dans ce coin du pays et au Pakistan. Le 24 mai 2015, Meenakshi Koumari, 23 ans, et sa sœur, 15 ans, deux Dalits ou intouchables, quittent précipitamment Sankrod, leur village proche de la capitale New Delhi, accompagnées de leur famille. Depuis des mois, elles subissaient des pressions et craignaient des représailles après la fuite de leur frère Ravi avec une femme membre de la caste dominante des Jattes. Et elles avaient bien raison. Le 30 juillet, les membres d'un cap Penchayat, un conseil de plusieurs villages composés uniquement d'hommes non élus et issus de cette même caste dominante, impartiaux donc, confirme la menace et les condamne au viol collectif et à l'humiliation publique. Pour comprendre comment on en arrive à ce que des innocentes se retrouvent à payer de leur corps pour la faute commise par un homme de leur famille, revenons à la fameuse faute de leur frère Ravi. Ce dernier est l'un des protagonistes d'une de ces histoires d'amour bollywoodienne. Impossible parce qu'entre deux personnes de castes différentes. En effet, Ravi et une jeune femme jatte décident de s'unir en 2014 après s'être fréquentés pendant 3 ans. La famille jatte refuse le mariage puisqu'il leur est impensable d'avoir un gendre issu d'une caste inférieure à la leur et encore moins un Dalit. Le couple s'enfuit en janvier de l'année suivante. Dans ce village traditionnel du district de Baghpat, dans le nord de l'Inde, c'est un scandale. Un cap Penchayat est alors convoqué pour résoudre le problème. Comment ramener les amantes à la raison ? à tout problème sa solution. Le conseil déclare que si les Kumar n'obligent pas les jeunes gens à rentrer, les deux sœurs paieront de leur corps et de leur dignité. Les Kapenchayats sont des tribunaux autoproclamés et officieux qui œuvrent surtout sur cette zone de l'Uttar Pradesh et surtout l'Haryana. Et attention, ils n'ont rien à voir avec les assemblées officielles élues, appelées Gram Panchayat, qui gèrent les affaires des villages et dont le fonctionnement est, lui, soumis à la loi. Les Kap condamnent ainsi à des peines délirantes les personnes, souvent des jeunes et majoritairement des femmes, qui auraient sali, parfois par personne interposée, comme c'est le cas ici, l'honneur jat en transgressant les vieilles mœurs. Pour la chercheuse Dipa Awasti, qui travaille avec de nombreuses associations et ONG sur les questions de violences faites aux femmes et aux enfants, ils interfèrent particulièrement dans les histoires matrimoniales, sur lesquelles repose la solidité de la norme traditionnelle. Ils appliquent rigoureusement trois principes. 1. Les deux époux doivent appartenir aux mêmes castes, communautés et religions. 2. Les mariages entre garçons et filles d'une même gotra ou clan, considérés comme frères et sœurs, sont donc bannis. Et 3. Selon ce même principe de Baishara, fraternité, deux personnes d'un même village ne peuvent se marier. Le fonctionnement pénal est de répliquer à l'humiliation subie par une autre humiliation. Ici, le fait qu'une femme jatte soit souillée par un dalit entraîne le viol et la mise à nu des deux sœurs du fauteur. Asha Sarwar, militante féministe pakistanaise, d'ajouter « C'est l'idée d'équité entre victimes et bourreaux dans ces communautés qui fait que les femmes se retrouvent à servir de caution, en quelque sorte. Les résistances à ces cours parallèles sont de plus en plus fortes. » Il y a quand même des choses qui se passent. Et en 2011, elles ont été déclarées illégales par la Cour suprême. Pourtant, rien n'y fait et des familles entières continuent d'être opprimées par leurs multiples sentences. Je reviens à l'histoire. Terrorisée, on la comprend, par les menaces du Cap, la famille Kumar réussit à convaincre leur fils et son amante de revenir, deux jours seulement après leur fuite. Mais à leur retour, la jeune femme est mariée de force à un autre homme et reprend la fuite avec l'élu de son cœur. En mars 2015, la famille Jatt dépose une plainte contre Ravi pour enlèvement et continue de harceler les Kumar. Celle-ci persuade le couple, qui attend alors un enfant, de se rendre à la police. Ni une ni deux, cette dernière livre la jeune femme à sa famille, mais le couple se refait la belle. Cette fois, Meenakshi, sa sœur et leurs parents craignent pour leur vie. Sous la pression, il et elle se réfugient à New Delhi, chez le frère aîné, Sumit, qui est officier de police. Méthodique, celui-ci enregistre les coups de fil menaçants reçus par les Kumar tout au long de l'affaire. Le père et Sumit déposent une plainte à la National Human Rights Commission et à la National Commission for Scheduled Caste. Entre-temps, la police retrouve et arrête Ravi, improvisant une sombre histoire de détention de stupéfiants pour le garder au frais. Pendant ce temps-là, au village, la maison des Kumar est mise à sac. Et à la plus jeune sœur, revenue au village pour reprendre les cours, on annonce en juillet que le Cap a confirmé sa décision. L'honneur doit être lavé et cela ne peut passer que par le déshonneur des deux jeunes femmes. Au début de l'affaire, le chef de la police locale, Sharad Sachan, interrogé par l'AFP, affirmait pourtant que l'enquête n'avait révélé aucune menace de viol à l'encontre des deux sœurs. Rien d'étonnant à cela. En effet, comme Dipa Awasti le démontre, la réaction de la police, lorsqu'elle est approchée par les victimes de ces tribunaux sauvages, est toujours négative. Elle n'a même pas le courage de faire face au Cap et condamne ainsi les victimes à des humiliations et des violences terribles. Sumit Kumar en témoignait à l'AFP en 2015. Dans le Panchayat, la décision des Jatt est définitive. Ils n'écoutent pas les Dalits. La police n'écoute pas les Dalits. La mise au silence de ces pratiques déséquilibrées de la loi du talion ne s'arrête pas là. Le peu d'agents de police qui tentent quelque chose cèdent immanquablement sous la pression de leur père ou des enjeux politiques. Le constat d'Awasti va plus loin et glace le sang. Toutes les agences compétentes savent qu'il s'agit d'organisations sociales illégales qui violent systématiquement les droits fondamentaux de la population et qui continuent pourtant à fonctionner. Aucun gouvernement ne se presse sur les questions qui concernent les femmes. Surprise. Un véritable scandale qui s'explique aisément lorsqu'on sait que dans cet état, la plupart des policiers et policières sont elles-mêmes jattes ou bien appartiennent à d'autres castes dominantes, alors qu'on ne compte que 7% de policiers et policières d'élite ou issus des peuples tribaux. Début août, Meenakshi, soutenue par son avocat Vivek Singh, saisit la Cour suprême pour demander protection pour elle et sa famille. Deux semaines plus tard, la plus haute juridiction du pays ordonne aux autorités d'Uttar Pradesh d'ouvrir une enquête. Et le 24 août, Amnesty International fait tourner une pétition dans le monde entier. C'est seulement grâce à un matraquage médiatique, une saisine ciblée des instances juridiques et enfin une défense étonnamment organisée de la part de cette famille dalites que les viols n'ont pas été exécutés. Cependant, tout n'est pas gagné et l'agressivité de la communauté jatte ne s'est pas apaisée. Les Kumars restent inquiètes à l'idée de se réinstaller au village. De cette histoire sordide, il faut retenir avant tout la terreur des sœurs Kumari. Mais il ne faut pourtant pas oublier celle de la jeune fille jatte, dont le destin a complètement échappé aux médias depuis les événements. En s'enfuyant à plusieurs reprises, elle s'est attirée la colère de sa famille, de son mari imposé et de sa communauté. Et elle n'a certainement rien arrangé en tombant enceinte d'un dalit. Objectifiées, les femmes, bien que dépourvues de toute voix au chapitre, se retrouvent à endosser la responsabilité du frère, du père, de l'oncle, et leur corps devient le simple outil d'application des peines et des cours interlopes. Alors que la constitution indienne est censée les protéger contre toute forme de discrimination, et que depuis un énième viol collectif meurtrier en 2012, les lois indiennes durcissent les peines encourues dans les cas de violences sexuelles. Reste que, dans certains endroits du pays, la seule manière de laver l'honneur d'une femme, c'est d'en souiller une autre. On atteint le comble du paradoxe lorsque, dans un contexte juridique de dissuasion du viol, les CAP, qui prétendent faire régner une forme de justice, s'octroient le droit de violer par procuration. C'est ce qu'a subi Mukhtar May en 2002 au Pakistan. Divorcée et sans enfant, la victime idéale, elle est condamnée quand son frère Shakou, un adolescent de moins de 15 ans, ose adresser la parole en public à une fille de caste supérieure. Violée par plusieurs hommes, elle est baladée nue, le visage souillé dans les rues du village. À force d'acharnement, Mukhtar May a obtenu réparation. L'inculpation de ses 14 bourreaux, qu'ils soient violeurs ou voyeurs du viol. Une victoire qu'elle considère cependant comme mitigée puisque certains des criminels ont finalement été graciés. Dans la lignée de ces mobilisations, de nombreuses femmes s'unissent et se battent en Inde comme au Pakistan contre une culture du viol tristement ancrée dans nos sociétés. Cependant, la lutte est en soi incomplète si l'on n'éradique pas le pouvoir que les CAP exercent sur leur vie. Si les grandes villes indiennes sont sur le point de connaître une quatrième vague de féminisme, la libération collective des femmes ne pourra arriver tant que les femmes des zones non urbaines ne pourront faire les choix de vie les plus élémentaires.
Merci beaucoup Fatima Benomar pour cette présentation, Claire Savina pour cette lecture un petit peu remuante. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Alors, j'aurais eu une petite question. Alors, l'avant-propos est fait par Natacha Chetkouti-Osorovitz, qui est une sociologue bien connue. Enfin, j'espère que vous la connaissez. Et elle parle en tout cas de cas où, en tout cas, les personnes poursuivies par la justice, les femmes, sont. C'est des cas qui sont hors genre, où elle parle d'excès de genre ou de déficit de genre. Alors, est-ce que ces condamnations qui paraissent exceptionnelles parce qu'elles sont appliquées qu'aux femmes, elles cherchent à rétablir une sorte d'équilibre de genre.
Oui, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer aussi au début, c'est qu'il y a vraiment une histoire de ramener les femmes dans la définition qui est censée être la leur, et donc d'où cette idée que quand, en plus d'être des femmes, bah, c'est des femmes ou bien garçonne ou bien hypersexualisée, là aussi avec plein de guillemets, il y a cette idée de taxe, on va dire, de surcroît, on va dire, de sévérité. Et donc, en fait, qu'on ne cible pas que l'infraction. On cible l'infraction parce qu'elle est due à une femme qui n'est pas femme. C'est marrant parce qu'on en discutait une fois avec Sacha qui est là et on se demandait si le crime des sorcières, par exemple, qui ont été brûlées, c'était parce que c'était des femmes ou c'était parce que quelque part, c'était des non-femmes. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on les punissait parce qu'elles sortaient de ce que sont censées être des femmes du moment qu'elles sortaient de l'hétérosexualité. Ou de, voilà, ça devenait en fait des personnages un peu queer du moment qu'elles désobéissaient au genre. Et c'est un peu ça, je pense, qu'essaye d'expliquer Natacha Chetkouti. Donc voilà, c'est des femmes qui débordent donc de ces bornes-là et qui vont donc se faire taper sur les doigts.
Oui, et puis comme tu disais, il y a sortir du genre ou l'excès de genre. Donc c'est être, ne pas être femme ou être trop femme. Les deux, il n'y a rien qui va, quoi. Il faut être pile au milieu. Et qu'est-ce que ça veut dire être pile au milieu ? Et quand tu parles des sorcières, il y a aussi, c'est aussi un moment où on condamne des femmes qui ont le savoir de la médecine à un moment donné où on décide que la médecine doit être diplômée et qui peut accéder au diplôme ? Seulement les hommes. Donc du jour au lendemain, quasiment, les femmes deviennent sorcières. Mais avant ça, elles sont c'est des soignantes.
Je rebondis sur cette interdiction d'exercice de la médecine pour les femmes. Alors, comme vous l'avez présenté, c'est 30 histoires qui sont présentées de façon chronologique, donc du XIIIe siècle au XXIe siècle. Et les deux premières donc, se passent au Moyen-Âge. La première, c'est... j'ai noté son nom, mais je ne l'ai plus en tête. Je suis navrée. Ouais, Marguerite Porrété, qui est condamnée par l'Inquisition pour hérésie. Enfin, c'était une mystique. Enfin, vous mentionnez Hildegard von Bingen. Elle a une approche très... Il y a une approche très mystique du catholicisme et donc elle était membre d'un béguinage. Elle a été condamnée pour hérésie. À la suite de cette condamnation, il y a énormément de béguinages qui ont été fermés dans toute l'Europe. Vous mentionnez après Jacoba Felici, qui était donc une médecine, donc c'est un ancien terme d'ailleurs, on dit médecine, à qui on a interdit la pratique de la médecine suite à la poursuite du médecin du roi. Et donc là, on voit deux cas où la condamnation d'une femme devient la condamnation de toutes les femmes, ou en tout cas d'une pratique. Est-ce que c'est un schéma que vous avez vu se répéter souvent dans l'histoire ? Est-ce que c'est peut-être plus spécifique au Moyen-Âge, où il y a une sorte de masculinisation du monde, peut-être ?
Qu'est-ce que tu veux dire ? La question, c'est est-ce qu'on voit le schéma d'une femme qui représente... d'un portrait de femme qui représente toute une génération de femmes ou tout un moment.
Non, c'est que j'ai eu le sentiment en vous lisant que à la suite de la condamnation pour hérésie, beaucoup de béguinages ferment et donc c'est une béguine qui est condamnée et donc on aurait dit presque que cette condamnation c'était juste une petite brèche qui a permis d'effacer toutes sortes de déviances ou je sais pas qui est incarnée à ce moment-là juste par une seule femme.
Oui, le point commun, c'est le privilège. C'est-à-dire que dans l'affaire Marguerite Porrété, donc c'est une béguine qui veut faire des écrits religieux, ce qui était quelque chose, un précaré du clergé. Donc, quelque part, en se débarrassant de son cas, ça a permis, ça a ouvert la brèche pour fermer tous les autres béguinages où il y avait des graines de Marguerite Porrété. Et c'était pour maintenir ce pouvoir. Même chose pour Félicie. C'est-à-dire qu'à un moment, ça rapportait du pognon d'être médecin. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un marché qui s'ouvrait. Et elle avait une importante clientèle parce qu'elle était très appréciée dans ses services. Et donc, là aussi, c'est une question de garde des privilèges. Et donc, hop, on fait tomber une femme en disant voilà, elle n'est pas censée, elle n'a pas le droit. Et du coup, hop, c'est quelque chose qui va se généraliser et qui va protéger des précarés masculins.
Oui. Mais du coup, je pense que j'avais un peu compris ta question. Et c'est aussi qu'on parle du Moyen-Âge et que les récits qu'on a aujourd'hui, c'est des récits de personnes qui ont marqué l'histoire. Donc, c'est pas tant qu'elles sont une brèche qui ouvre et qui... enfin, à mon sens, hein, qui ouvre et qui fait qu'il y a plein d'autres femmes qui subissent le même sort. Après, c'est juste c'est celles qu'on a retenues. Et on les a retenues parce que ben, Jacoba, elle avait un statut particulier. C'était une médecine exceptionnelle. Et Marguerite Porreté, bah, elle se veut exégète, ce qui n'est pas offert aux femmes à ce moment-là. C'est-à-dire elles sont particulièrement savantes et elles sont particulièrement exceptionnelles, donc on s'en souvient, mais en fait elles sont, je pense, une multitude à vivre des sorts à peu près similaires, mais comme tu le dis, avec une clientèle moins argentée pour Jacoba.
Mais a priori, Marguerite Porreté aurait été la toute première personne en France à avoir été brûlée pour ses écrits.
Juste peut-être préciser, je ne sais pas si tout le monde dans la salle sait ce que c'est qu'un béguinage. C'était des communautés de femmes au Moyen-Âge qui en fait, voulaient ni rentrer dans les ordres, ni se marier, et qui du coup vivaient, enfin, j'y vais très vite, mais du coup c'était déjà un peu une place particulière dans l'ordre du genre, tout ça. Enfin, j'ai appris il n'y a pas très longtemps ce que ça voulait dire, du coup je me permets de... c'est pas pour...
en écrivant l'article, et j'ai adoré le concept.
Et c'est incroyable, ouais. Il y a un livre qui s'appelle La nuit des Béguines, c'est un roman qui est hyper beau. Voilà, mais sinon il y a aussi le portrait. Tu voulais prendre la parole, Claire ?
Oui, je voulais juste rajouter quelque chose sur justement Marguerite Porreté, parce que tu as dit tout à l'heure, dans ta présentation, les femmes, elles sont parfois moins nombreuses à être jugées, mais beaucoup plus durement. Et c'est exactement ce qui se passe pour Marguerite Porreté. Et c'est pour ça que c'est la... Enfin, de fait, c'est la première personne à être brûlée pour interprétation et pour écriture. C'est quand même un truc énorme dans l'histoire de la pensée, là, de commencer à brûler les gens pour leurs écrits. Ça devient après monnaie courante, mais au début, c'est quand même un truc... voilà, ça, on le voit. Et par la suite, c'est surtout des hommes qui vont subir ce genre de choses, mais de fait, elle a été beaucoup plus, enfin, son cas était aggravé tout de suite.
Moi, j'avais une question. Enfin, déjà, merci beaucoup pour la présentation, la lecture. J'ai plusieurs questions. Peut-être, je vais les mélanger. Au pire, vous prenez ce que vous voulez. J'avais peut-être envie que vous reparliez peut-être du processus de sélection des histoires, parce que, donc, pour en dire un mot, enfin, je trouvais ça curieux que vous ayez choisi du coup de lire les Sœurs Koumari, alors qu'il y a tout un dans l'introduction une explication de dire que même si vous couvrez une grande période historique et que vous avez essayé de avoir des exemples dans plusieurs contextes sociaux, plusieurs continents, etc., de plutôt partir des sociétés dans lesquelles vous vivez, qui sont du coup l'Europe contemporaine, quoi. Et du coup, je trouvais ça étrange que ce soit, enfin, et en même temps super intéressant. Mais donc, peut-être parler un peu de ça, comment vous y êtes prise, parce que vous êtes hyper nombreuses à avoir écrit. Enfin, donc peut-être des questions sur ça. Et après, j'avais une autre question qui était plus de, c'est un livre super puissant, je trouve. Enfin, moi, qui m'affecte hyper fort, en le lisant, ça, à la fois, j'ai envie de éclater de rire, parce que des fois, il y a des situations, genre dans les Fouteuses de merde, dans les Fatales, d'une puissance aussi féminine qui se dégage, enfin, ou en tout cas de personnes assignées femmes, quoi. Et en même temps, ça me donne envie de hurler. Enfin, bon, c'est assez. Du coup, je voulais un peu savoir comment vous, ça vous avait affecté de travailler sur ces sujets, et dans l'introduction, vous parlez de trouver de la force pour lutter en traversant ces portraits. Et du coup aussi, voilà, un peu comment ça vous a affecté, comment ça vous donne de la force ou pas, des choses comme ça. Voilà, beaucoup de questions en même temps.
Ouais, bah, je commence, tu me reprends. Donc pour le processus de sélection d'abord, on y allait. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir des profils différents en termes de géographie, en termes d'époque et... aussi en termes de crimes et de punitions. Donc ça, il y avait beaucoup d'entrées. Donc on y allait à tâtons. Il fallait aller progressivement. Et c'est vrai qu'on était constamment dans cette problématique qui était à la fois, on ne veut pas dire « Ah, là-bas, c'est des barbares et nous, c'est bien chez nous. » Et en même temps, on ne veut pas parler que de chez nous. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on s'est disputé. voilà. Voilà, donc on s'est... il y a eu plein de moments, et puis il y avait les moments où on se rendait compte, ah zut, mais il y a quand même des portraits qui se ressemblent beaucoup, et puis finalement, bon, voilà, il y a eu des, je dirais pas des ratés, mais il y a eu des moments où on se disait, ah là, il faut qu'on rééquilibre. On était toujours dans un rééquilibrage, parce qu'on n'a pas sélectionné 30 portraits, et paf, on va commencer à écrire. On a sélectionné, on avait 250, on avait un tableau avec 250 entrées, qu'on rajoutait, on en ajoutait, on en enlevait. Après, on en avait une centaine, et puis ça, voilà, on dégrossissait comme ça. Et parfois, on en ajoutait. Et parfois, on se disait, ah oui, mais regarde, on n'a personne du continent asiatique. Ah, bah là, il faut travailler là-dessus, les filles, on y va. Donc, c'était comme ça. Après, pour le choix de la lecture aujourd'hui, je ne sais pas si j'oublie des bouts de ta question, mais pour le choix de la lecture d'aujourd'hui, ben, c'est simplement que je voulais parler d'un portrait où le différentiel de genre est très clair. Et je me suis un peu demandé avant de venir. La dernière fois que j'ai présenté le livre, j'ai lu à cet achat court. Je me suis un peu demandé, pas sur la question du positionnement occident, non-occident, ou je ne sais pas quoi, parce que je pense que, en effet, si on choisit un seul portrait, de toute façon, on va être positionné dans un seul cadre géopolitique, dans un seul. Donc, ça, l'idée, c'est de se dire, il y a 29 portraits qui répondent à celui-ci. Il y en a des drôles, il y en a des beaucoup plus gays, il y en a voilà, des plus durs, il y en a des violents où la violence fait un peu plaisir aussi parce qu'elle vient de la femme qui se venge. Donc voilà, tout n'est pas aussi dur que ce portrait. Et oui, je me posais la question de savoir est-ce que lire un portrait comme ça, aussi poignant, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Bon, je sais pas, j'ai pas de réponse. Quand même, on s'est dit que, de fait, c'est des femmes qui subissent pas la sentence. Donc il y a quand même il y a du militantisme, il y a une mobilisation, il y a des choses qui se passent, il y a une législation qui change, donc c'est plutôt positif dans ce sens-là. Et la deuxième partie de ta question, c'était
sur les affects et la force que ça
fait. Ah oui. Bah, je vais répondre rapidement, puis après je laisserai Fatima compléter. Bah oui, il y a des moments où il y a des portraits qui sont durs à écrire, à rechercher, à écrire. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où j'oubliais certaines choses. Enfin, j'oubliais des facettes de ce que j'étais en train d'écrire parce que j'avais envie. Bon, par exemple, sur Assata Shakur, j'avais envie de dire mille choses. Et puis, en plus, il y a tellement de textes qui ont été écrits sur elle et tellement de conneries aussi. Et moi, j'avais envie d'être hyper provoque. Et j'ai eu des retours de lectrices qui m'ont dit, mais c'est trop provoque. Assata Shakur, c'est une Black Panther qui s'est enfuie de prison dans les années 70 et qui est à Cuba depuis. C'est la marraine de Tupac Shakur, pour ceux qui aiment le... et voilà, elle est encore en vie, elle est encore en exil à Cuba et elle donne très peu d'interviews. La dernière, c'était en 2013, je crois, 2015. Je sais pas, j'ai pas la date en tête, c'est dans le livre. Je vous laisse regarder. Et je te laisse peut-être donner ton point de vue.
Oui, par rapport aux émotions qui sont suscitées, moi, je suis militante féministe depuis 2009. Et très clairement, il y a des moments de super empowerment, par exemple 2017 avec MeToo, ou même un peu avant, quand il y avait eu la campagne de soutien à Jacqueline Sauvage, et des moments d'accablement. Donc, je pense que c'est assez représentatif de ça, hein, la traversée qu'on fait à travers ces 30 portraits. Il y en a qui donnent de la force, il y en a qui nous font tomber plus bas que terre. Bah, c'est un petit peu aussi ce qu'on vit quand on est militante féministe. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'écrire un
ouais, c'était
vas-y ouais. Jacqueline Sauvage, alors je me suis à fond investie parce que j'ai fait à la fois le texte et le dessin et j'ai fait surtout sa campagne, c'est-à-dire que j'étais à fond dedans pendant la campagne pour demander la grâce pour Jacqueline Sauvage, donc pas l'innocentement, la grâce qui est déjà un positionnement particulier, donc voilà, et ça c'est voilà, dans cette dynamique-là, c'était une dynamique qui avait soulevé là aussi beaucoup de questions par rapport à la justice et par rapport à la situation particulière dont on a d'autres exemples depuis, des femmes qui se sont défendues. Et la méthodologie, effectivement, il y avait un espèce d'Excel cauchemardesque parce que donc il y avait une première colonne, c'était là où elles sont géographiquement. Une autre colonne, c'était l'époque. Après, c'était la problématique. Après, c'était leur, on va dire, leur profil. Ouais. Les tueuses de violents, oui. Parce qu'il est collectif, il y a d'autres exemples dedans. Donc, en fait, je pense qu'il y avait, une bonne dizaine de colonnes et il fallait donc rechercher la parité et dans les thématiques et dans les profils des personnes d'un point de vue intersectionnalité, c'est-à-dire les rapports de domination cumulés qu'elles pouvaient subir. Il faut quand même s'applaudir un petit peu quand même sur ce... sur ça, on a vraiment essayé parce que franchement, il y a des portraits qui nous tenaient à cœur et qu'on a écartés par cette souci d'équilibre. Donc effectivement, quand on choisit une lecture, bien évidemment, elle n'est pas représentative du livre, même si j'entends que c'est un choix politique de choisir un ou l'autre, et on va essayer dans notre tournée des librairies de tenir compte de ça. Non, mais c'est un débat. C'est un débat de choix, ouais. Aussi.
Et je pense aussi, l'idée, c'est d'en lire des indifférents quasiment à chaque fois, parce que pour représenter les autrices et pour représenter les personnes.
Peut-être... Juste un petit mot sur les images et l'importance des images, parce que c'est très beau, le livre. On est trop fiers. Si tu veux, pendant que tu
parles... Vas-y, fais Miss Météo. tu fais ça très bien. C'est un livre qui est écrit à 9 personnes, mais c'est aussi un livre qui est illustré par 7 illustratrices même. Qu'on a recruté et sélectionné avec la maison d'édition, donc en discussion permanente, on a proposé certaines personnes, dont Fatima, qui est aussi une des illustratrices du livre. Et donc, c'est 30 portraits originaux qui rend ce livre très, très beau et qui est mis en couleur et en maquette par un collectif, encore une fois, un collectif de 5... maquettistes qui sont les Téméraires, qui sont un collectif de maquettistes, enfin de designers féministes et queer, et qui se sont amusés à nous aider à faire de ce livre qui était très pluriel, quelque chose qui a une certaine continuité. Peut-être un petit mot de
Oui, moi j'ai illustré 4 portraits. Donc ça, c'est sur les lois Jim Crow. Typiquement, celui-là, par exemple, au début, j'ai fait un premier dessin, et je l'ai soumis à Rokhaya Diallo, d'ailleurs, qui m'a dit « Attention, il y a des biais négrophobes. » Et donc, je l'ai refait. Et Lucille aussi, l'autrice du livre et du film, a dit « Attention, tu as dû te référer à des dessins qui avaient été faits par la presse coloniale à l'époque. » Donc, typiquement, c'est le genre de débat et d'aller-retour qu'on a pu faire pour avoir essayé d'avoir les représentations les plus éthiques, on va dire, en plus d'être en plus de l'aspect purement esthétique.
Voilà, puis donc c'est très varié dans les dessins, je sais pas lesquels tu as montré jusque là, mais...
Bon, on arrête, le reste est payant. Ouais.
C'est hyper beau, en tout cas.
C'est hyper beau et c'est très 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 différent d'une illustratrice à l'autre aussi, d'un imaginaire à l'autre. D'un imaginaire à l'autre, d'une illustratrice à l'autre et d'un portrait à l'autre. Il y a eu vraiment un énorme travail de la part des illustratrices. Et on a fait quelques jours de discussion ensemble aussi. On a travaillé ensemble et c'était hyper chouette.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Enfin, dans les personnes qui sont là ?
Bonsoir, vous avez parlé d'un tableau Excel avec 250 entrées, donc on a envie de savoir s'il y a un tome 2, voire un tome 3 et toute une série prévue de Foutu pour Foutu.
J'allais le dire tout à l'heure sous forme de blague. Chaque fois qu'on avait des personnes qu'on cédait et on retirait des personnes qui nous tenaient particulièrement à cœur, qu'on devait retirer de la liste pour des questions d'équilibre, on se disait bah, volume 2. Donc voilà. Il n'y a rien de prévu pour le moment. Mais en effet, c'est infini comme histoire.
Ouais, j'avais une autre question. Alors, il y a un bouquin qui est... Pardon, c'est un peu question du libraire, là, mais il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps à l'Arche, dans la collection des écrits pour la parole. Enfin, c'est vachement bien. Ça s'appelle Peine mineure. Et c'est le récit de jeunes femmes, donc mineures, confrontées à la justice pour des petits larcins, de la chourfe, des trucs. Enfin, bon, voilà. Et elle raconte à la fois comment la justice se comporte envers elle. Donc, c'est hyper infantilisant et déresponsabilisant. Donc, la plupart du temps, c'est pas tellement elles qui sont responsables, mais les hommes dans leur entourage, qui ont été des parents ou des amis violents. Et en même temps, la possibilité même de leur violence ou de leur rébellion adolescente, quoi, est complètement niée par la justice. Alors, dans l'introduction, vous expliquez d'où vous partez, mais alors, est-ce que vous avez peut-être fait du terrain aujourd'hui? Est-ce que vous voyez peut-être... Pardon, j'ai déjà posé ça tout à l'heure, mais sur la question des schémas, quoi, genre, est-ce qu'il y a des répétitions historiques qui continuent aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu rencontrer des juristes ou des personnes, des travailleurs sociales aujourd'hui? Comment est-ce que, voilà, est-ce que on pourrait faire un foutu pour foutu tout à fait contemporain? Voilà, j'ai plein de questions un peu mélangées, pardon, mais sur comment aujourd'hui ça se passe.
Sur les experts de terrain, moi, j'ai pu avoir une association qui s'occupe des filles victimes de menaces de viol réparateur. Non, pardon, de mariage réparateur, c'est-à-dire des mariages pour les filles qui ont été violées. Après, oui, enfin, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que par rapport à ce que vous soulevez, c'est qu'elles seront déresponsabilisées ou pas. Là aussi, comment elles se situent. Par exemple, sur la question des petits larcins de mineurs, bah, y a le fameux article sur Jim Crow qui voit que là, parce que c'était des filles noires, bah, on leur enlève cette dimension de l'enfance. Ce qui, en général, ce qu'on inflige aux mineurs racisés, que ce soit d'ailleurs aussi les garçons, c'est qu'on les désenfante, on va dire, quelque part. Maintenant, est-ce qu'on a un article sur des filles mineures qui ont été déresponsabilisées parce qu'elles sont... Il me semble que non.
Non. Le livre dont tu parles, c'est un livre contemporain. C'est des récits contemporains. Parce qu'il y a aussi un livre par Michel Perrault qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Mauvaise fille, et qui est sur c'est au 19e siècle, début du 20e, et c'est que les gangs de filles. Donc c'est un peu dans la continuité. Donc non, il n'y a pas de portrait sur les mineurs en particulier, à part la partie sur Jim Crow qui quand même parle des mineurs. Enfin,
on aurait pu parler de ce qui s'est passé avec les Magdalen Sisters,
oui.
Qui internaient parce qu'elles se comportaient mal en société. Mmh.
Bah, après, Aïcha, elle est mineure. La sœur de Meenakshi, elle est mineure. En fait, il y a pas mal de mineurs, mais on n'a pas focalisé particulièrement dessus. Après, pour répondre à ta question, oui, on pourrait faire un foutu pour foutu contemporain, c'est sûr, sans aller dans l'histoire. Nous, on trouvait intéressant de travailler sur cette espèce de continuum où finalement, ben, ça va pas en s'améliorant. Et donc de montrer qu'il y a des choses qui se passent dans le passé. Et on a tendance à dire « Ah, c'était comme ça avant, et maintenant, c'est plus comme ça. » Et en fait, pas du tout, c'est pas si simple. Et je pense que ta question de savoir si c'est des schémas qui se répètent dans l'histoire, oui, j'ai envie de répondre oui, mais en même temps, c'est pas des schémas qui sont exactement les mêmes à chaque fois et qui sont motivés par par les mêmes choses ou par les mêmes dynamiques. Ce qui est permanent et ce qu'on voit à chaque fois, c'est la déshumanisation. Que ce soit par rendre la personne monstrueuse ou la déresponsabiliser. C'est la rendre... c'est pas une citoyenne, c'est pas une humaine. Ça, c'est la constance, je pense.
Du coup, bah, s'il y a des questions, n'hésitez pas à... sauter en l'air. Et sinon, bah, ça donne un peu envie de vous demander peut-être chacune de partager peut-être un portrait que vous auriez aimé dans le livre et que vous avez dû lâcher ou votre portrait préféré, je sais pas, mais je trouve que c'est super intéressant quand ça devient aussi très concret. Donc soit un portrait qui est pas dans le livre parce que il a pas pu y trouver sa place, soit peut-être un portrait qui est dedans et qui vous parle particulièrement.
Jim Crow, j'adore celui sur.
Ouais, tu veux parler de Jim Crow? Tu veux dire
parle pendant ce temps-là.
Non, mais je parle, la question, c'est de savoir si on a un portrait qu'on aurait laissé tomber.
Ouais, mais je crois que j'ai une mémoire traumatique par rapport à ça. J'ai oublié.
Okay. Moi, j'avoue que la question est trop débottée pour que je me souvienne. Bon, et moi, mon statut était un peu particulier parce que j'ai dirigé cet ouvrage, donc j'étais un peu. Bon, bah, des fois, il y avait des portraits que je voulais faire. Par exemple, bah, la période Jim Crow, j'y étais très attachée et je voulais vraiment que ce portrait se fasse. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une autrice qui était très motivée pour le faire, j'ai fait, bon, bah, fais-le. Lucy X, pareil, il y a eu quelques portraits comme ça. Donc, j'avais un statut un peu où moi, j'étais moins dans l'attachement au portrait et j'étais plus dans le truc un peu, bon, il faut que ça aille vers là. Donc, je suis peut-être pas la meilleure personne. Mais je suis sûre que Fatima, elle en a.
Non, je me souviens plus de ce qu'on a écarté, ce que je crois que j'ai voulu oublier ce moment-là. Bon, allez, je vais vous faire une mini-lecture de la fin du portrait de Jim Crow, c'est bon. En 1963, Polly Murray, militante des droits civiques, rend hommage à ses femmes et leur résistance dans un célèbre discours comparant Jim Crow et Jane Crow. Après des années de lutte individuelle et collective, le Congrès ratifie le Civil Rights Act de 1964 qui interdit la discrimination et met fin à l'ère Jim Crow. Une ère qui aura duré 100 ans et pendant laquelle de nombreuses femmes captives ont trouvé dans la musique blues l'espace pour exprimer leur vécu et revendiquer cette féminité que le système judiciaire et carcéral a tenté de leur ôter. The judge says, listen, Bessie, tell me why you killed your man. I said, judge, you ain't no woman and you can't understand. Donc, c'est les paroles de Sing Sing Prison Blues. Le juge me dit, écoute, Bessie, dis-moi pourquoi tu as tué ton homme. J'ai dit, juge, tu n'es pas une femme, tu ne peux pas comprendre.
À défaut de donner la liste des portraits qui ne sont pas dans le livre, on pourrait peut-être vous donner un petit panorama de ce qu'il y a dedans, parce qu'on n'a pas vraiment fait ça. Et pour vous ayez une idée, donc on a les deux portraits dont on a parlé tout à l'heure avec Baptiste. On a des Italiennes adultères qui ont été décapitées pour adultère au XIVe et XVe siècle. On a une pirate du Maroc, Saïd al-Hurra, qu'on adore, du XVIe siècle, qui était la collègue de Barberousse, mais on ne parle jamais d'elle, on parle toujours de lui. On a Felipa de Souza, qui a été condamnée pour hérésie, qui était parce qu'elle était lesbienne. On a la marquise de Brinvilliers, qui était une empoisonneuse. On a Teresa de Benguela, qui était une militante, enfin plus qu'une militante, une vraie guerrière pour la libération de son peuple. On a Anna Goldin, qui est la dernière sorcière, la dernière personne condamnée au bûcher pour sorcellerie en Europe. On a Charlotte Corday, que vous connaissez sûrement. On a Zheng Xi, une autre pirate. Voilà, on a deux pirates. On aime bien les pirates, qui est une pirate chinoise. On a Marie Barthet, qui était une femme qui a été envoyée au bagne pour petit larcin et qui aurait pu, dans ce mouvement où les femmes étaient envoyées au bagne pour servir de ventre aux bagnards. Par ventre, j'entends pour leur faire des bébés. On a les captifs sous l'ère Jim Crow, que Fatima vient de nous donner. On a Germaine Berton, Madeleine Pelletier, Lucy X Anderson, qui était. C'est toujours un peu compliqué de dire. Bon, qui fait partie des personnes trans du livre et qui a été condamnée parce qu'elle avait épousé des hommes. Et qui ne s'était pas rendu compte de. Enfin, voilà. À une époque où on n'avait pas le droit d'épouser un homme quand on était soi-disant un homme ou une personne trans. Donc elle a été condamnée pour récidive parce qu'elle a divorcé et puis elle s'est remariée. Voilà. Vautisseau, qui était aussi une adolescente, qui était une adolescente vietnamienne qui a été mise à mort aussi au bagne. Donc on a deux bagnardes. Stéphanie Sinclair, qui était une gangster à New York, qui venait de la Martinique. Marsha P. Johnson, qui est une militante LGBT du XXe siècle. Assata Shakur, dont on a parlé tout à l'heure. Chamoiti Piazzo, qui est une femme thaïlandaise qui a mis en place un système de Ponzi et qui a failli ruiner la Thaïlande. on a Fernanda Farias de Albuquerque, qui était une femme, une prostituée trans au Brésil, en Espagne, en Italie. On a Magali Guillemot et Fabienne Cabou, qui sont des infanticides. On a Juana Barraza Samperio, qui était une catcheuse qui tuait des petites vieilles au Mexique. Et voilà. C'est une des premières, dans l'histoire du Mexique, une des premières personnes femmes à avoir été considérée comme un serial killer. On a les tueuses de violents, dont Jacqueline Sauvage. Donc, c'est des femmes qui se sont vengées de leur mari, parents violents. Ou se sont défendues. Oui. Se sont défendus, t'as raison, pas vengés, défendus. Aïcha Ibrahim Duhulot, qui est une femme qui a été lapidée. On n'a pas parlé de la lapidation aujourd'hui, mais ça, c'est une peine qui n'est infligée qu'aux femmes, quasiment exclusivement. On a les sorcières d'aujourd'hui au Ghana, qui sont des femmes qui sont mises dans des camps à la sortie des villages, enfin à l'écart des villages. Les sœurs Koumari, qu'on a lues tout à l'heure. Laetitia Fabaron et Sénamou Ndiaye, qui sont des néonaticides. Raïla Daoud, qui est une intellectuelle ouïghour, qui a disparu. Et les mariages réparateurs qui terminent le livre. Et peut-être tu peux en dire deux mots parce qu'ils sont un petit peu à part dans le livre.
Oui, là aussi, c'était un portrait collectif donc, qui a couvert plusieurs périodes, mais aussi endroits. Et je me suis rendu compte que les mariages réparateurs ont été très récemment, on va dire, abolis. Par exemple, aux États-Unis, je crois que c'était il n'y a même pas... Je ne me souviens plus des dates. C'est très récent. En Italie aussi, parce qu'il y a une jeune Italienne qui était mineure, qui était promise à un mec. Elle a refusé de l'épouser.
1981 en Italie.
Ouais. Elle a décidé... Il a décidé de la violer, en fait, pour forcer la famille à organiser très vite ce mariage. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle est allée porter plainte contre lui. Elle a eu gain de cause. Et grâce à ça, les mariages réparateurs ont été abolis en Italie. Donc, il y a quand même des success stories, bon, avec un côté effectivement très, très dramatique, mais qui donnent de l'espoir parce que ce sont des femmes qui ont trouvé les marges de manœuvre pour ne pas se laisser faire et pour gagner un acquis collectif.
Claire, ce que c'est qu'un mariage réparateur ? Un mariage réparateur, c'est quand on force la femme qui a été violée à épouser son violeur. Donc, parce que du coup, elle est réparée. Et ce qui avait de différent aussi dans ces portraits, c'est que ce n'est pas des criminels. Elles sont considérées par la justice comme victimes, mais subissent la double peine de devoir épouser. Donc on a beaucoup hésité sur ce portrait à l'inclure ou pas, parce que c'est vrai que ce n'est pas des femmes criminelles ou criminalisées, mais on trouvait que leur réparation était quand même un peu dure. Donc, on voulait quand même en parler. Et je pense que c'est un sujet qui...
Et puis, il y a un côté très enthousiasmant parce que vous pouvez voir toute la dynamique d'abolition. Il y a eu au Maroc récemment aussi. Et peut-être que vous avez entendu parler des histoires de filles qui s'étaient donné la mort parce qu'on les menaçait de leur faire épouser leur violeur à titre de réparation. Et donc, il y a eu un gros mouvement féministe au Maroc qui a obtenu aussi récemment l'abolition de cette loi. En France, a été notamment notifié dans le code napoléonien. Code civil napoléonien, et donc ça s'est aussi répandu dans certaines colonies où il n'y avait pas, forcément cette prédisposition. Donc il y a, là aussi, ce n'est pas du tout présenté comme quelque chose de punitif, mais plutôt de quelque chose entre guillemets de féministe, c'est-à-dire Napoléon qui dit « Ne inquiétez pas, on ne va pas les laisser sur le bord de la route juste parce qu'elles ont été violées. Grâce à moi, elles vont pouvoir... on forcera, en fait, c'est une peine qui est visée envers le violeur, c'est-à-dire on le forcera à l'épouser, comme ça, elle, c'est bon, elle est dédommagée. »
Avec guillemets, c'est le mot de la...
à part si une personne a une question, je propose qu'on clôture et qu'on continue à discuter de façon plus informelle. Il y a les livres, il y en a plein devant, si vous voulez les regarder, peut-être parce que c'est vraiment un objet qui vaut le coup à être regardé. Et puis, merci beaucoup à Claire Sabina et Fatima Benomar d'être venues présenter le livre et pour le collectif, les nombreux collectifs qui ont travaillé à Foutu pour Foutu. Et merci à toutes et à tous d'être venus ce soir.
C'était Rencontre avec Fatima Benomar et Claire Sabina autour du livre Foutu pour Foutu, 30 histoires de la justice faite aux femmes, paru aux éditions de La Dernière Lettre.
Radio Livre.